Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Je vous préviens d'avance, cette discussion est passionnante. Nous avons échangé avec Florence Millot sur le thème de la communication en famille pour parler des sujets délicats. Vous connaissez probablement déjà Florence, puisqu'elle est l'auteure à succès de plusieurs livres, dont l'ouvrage « Comment parler à ses enfants ». Florence Millot est également psychologue et psychothérapeute auprès d'enfants, d'adolescents et de leurs parents depuis 10 ans. À travers cet épisode, elle nous partage son expérience et ses conseils pour aborder ces sujets délicats, deuil, attentat, séparation, maladie. Elle nous a partagé énormément d'outils concrets pour aborder ces sujets à la maison. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florence.
Bonjour.
Nous sommes vraiment contentes de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Adultes de Demain sur les sujets délicats. Alors avant qu'on démarre sur ce thème, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier de psychologue pour enfants ?
Alors, mon métier, c'est de pouvoir accueillir l'enfant tel qu'il est. Alors, parfois, c'est pour des petites choses de la vie quotidienne, parce qu'il s'entend pas avec ses parents, parce qu'il crie, parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Et parfois, c'est pour des choses plus profondes et plus importantes sur, justement, des sujets délicats de la vie, que ce soit sur la question du deuil, la question de la maladie, du harcèlement, etc. Le travail pour moi d'un psychologue, c'est pouvoir aller dans le monde de l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va me guider dans ce qu'il va me dire, dans ce qu'il ne va pas me dire, dans la manière aussi dont il va l'exprimer. Il y a des enfants qui aiment beaucoup parler, mais beaucoup d'autres préfèrent dessiner, préfèrent jouer, préfèrent en gros donner un langage symbolique. Et mon travail, c'est d'apprendre à le décoder. Parce que quand on parle de manière trop directe avec les enfants d'un sujet brûlant, souvent ils se renferment. Vous voyez, par exemple, si les parents viennent de se séparer, qu'est-ce que tu ressens ? Ça peut être une question qui est un peu trop cache, entre guillemets, quand l'enfant vient d'apprendre la nouvelle. Donc, on va partir sur d'autres univers pour, bien sûr, après revenir à des questions, la question des émotions.
Très bien. Et d'ailleurs, vous pratiquez en crèche, non ?
Oui. En gros, je suis psychologue et psychopédagogue, et dans la partie psychopédagogie, au-delà du cabinet Meyral, je travaille dans une vingtaine de crèches où je m'occupe d'un pôle de formation continue. Et l'idée, c'est de faire des formations toutes les semaines avec des professionnels de l'enfance pour leur expliquer le rythme de l'enfant, réfléchir ensemble à leur posture, mais aussi à leurs émotions, à ce qui est plus subtil en elles, parce qu'être toute la journée avec des enfants, ça réveille toujours beaucoup de choses en nous, beaucoup de colère aussi, de fatigue, et c'est important de pouvoir les nommer pour s'occuper au mieux des enfants.
Super intéressant. Et vous avez notamment, vous travaillez beaucoup avec la pédagogie tête, cœur, corps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi celle-ci consiste ?
Alors, pédagogie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec l'enfant sur différents niveaux. Parce que quand l'enfant vient en consultation, souvent le parent dit bah, « tu peux tout raconter à la dame, il faut que tu parles, c'est important ». Mais dans la réalité, parler parfois, c'est pas suffisant. Moi, j'ai des enfants qui viennent me voir aujourd'hui, qui connaissent leurs émotions par cœur et qui sont capables de me dire « j'ai peur, je suis angoissée », mais sur un ton qui est complètement désincarné. On sent qu'ils ont appris presque par cœur leur discours. Et moi, mon travail, c'est de les emmener plus en profondeur, donc au niveau des émotions, au niveau du ressenti. C'est-à-dire que l'enfant, quand il dit quelque chose, presque, il ressent la peur ou il ressent peut-être pas l'angoisse parce que c'est pas à l'instant T, mais en tout cas, qu'il vive quelque chose dans son corps pour qu'il puisse vraiment aller au-delà de ça. Et ensuite, le corps, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont souvent dans l'enfance en lien avec la grossesse, avec le fait qu'il était un tout petit bébé et qu'il avait que des sensations et des émotions et qu'il n'avait pas encore de pensée. Donc parfois, que ce soit avec moi en relaxation ou aussi avec quelqu'un d'extérieur, comme par exemple, moi j'aime bien travailler avec l'ostéopathie crânio-faciale parce que c'est une ostéopathie qui est très douce et on va vraiment travailler autour des émotions de la naissance de l'enfant, ce qui permet de pouvoir aussi avancer ensemble. Parce qu'on n'est pas qu'une tête, mais on n'est pas non plus qu'un corps. Et c'est aussi pour ça que pour moi c'est important d'avoir plusieurs outils dans mon approche, parce qu'il y a des enfants, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, parler c'est impossible. Alors on va faire des voyages imaginaires, on va dessiner un avatar, parce que justement ça va être un héros, et dans la cour on va essayer de réfléchir comment il pourrait s'adapter au mieux à ses copains, mais pas en tant que lui, en tant que petit Paul ou petite Fatou, mais plutôt en tant que héros déguisé, déjà même dans sa tête, pour qu'il puisse affronter au moins lui-même son problème dans son intimité. Parce que souvent, c'est des enfants qui n'osent même pas, même comme ça, dans l'intime, dans la relation à l'adulte, n'osent même pas se défendre, n'osent pas parler. Quand il y a un problème à la maison, c'est la même chose, n'osent rien dire. Donc, il faut qu'on ait quand même un ton, il faut qu'on construise un personnage, parfois, pour toucher du doigt ce qui fait le plus peur. Un peu comme nous, finalement, adultes. Il y a beaucoup d'adultes, quelque chose nous fait très peur, on me voit en disant non, j'ai pas trop envie d'en parler parce que si j'en parle, je vais m'écrouler, je vais déprimer, la porte est fermée. Pour un enfant, c'est exactement la même chose.
Et donc, ces enfants, vous pouvez les suivre pendant relativement longtemps, du coup ?
Alors, ça dépend aussi beaucoup du choix de la famille. Parfois, il y a des enfants qui ont des problèmes, on va dire, simples et moyens et qui font un suivi. Alors, ça peut être un mois, ça peut être deux mois, ça peut être six mois. Et parfois, quand le problème est trop gros, ça dépend beaucoup des familles. Des familles qui ont peur aussi de rentrer dans cette dimension. Mais c'est sans jugement parce que parfois, il y a des parents qui n'arrivent pas encore à porter leur propre douleur à eux. Et quand l'enfant, lui, est finalement... En avance, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, lui, il est assez vaillant pour ouvrir les portes. Parfois, les parents n'ont pas trop envie et parfois, l'enfant s'en va. Alors, c'est rare, mais ça existe aussi. Mais on peut comprendre que parfois, plus le sujet est lourd, moins on a envie d'en parler. Et c'est OK. Ça veut juste dire que la personne a besoin encore de se protéger. Et c'est pas grave, peut-être qu'elle le fera un an après, peut-être que ce sera 2 ans après, même 10 ans, et c'est pas très grave. L'enfant, lui, porte en lui quelque chose et parfois, c'est pas le bon moment. Et c'est aussi acceptable. Parfois, je vois des enfants qui viennent avec des problèmes très, très lourds. Et parfois, je sais d'avance qu'on ne va peut-être pas aller très loin parce que le parent, lui, n'est pas capable. Et il vaut mieux que le parent soit assez fort pour son enfant, pour l'éduquer, plutôt qu'ouvrir toutes les portes comme ça des émotions et puis finalement déprimer derrière ou ne pas être assez... ne plus être en connexion avec son enfant. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'il faut en parler tout de suite. Évidemment, dans l'idéal et dans l'absolu, on a envie que ce soit réglé, mais psychiquement, parfois, c'est pas possible et c'est pas très grave.
Super intéressant et c'est une parfaite transition pour commencer à aborder notre thème sur la communication en famille autour des sujets délicats. Vous avez développé une méthode de communication pour parler des sujets délicats, comme par exemple la séparation, le deuil, le harcèlement, etc. Et j'aimerais savoir, avant qu'on rentre en profondeur sur ce sujet, pourquoi est-ce que, selon vous, il a été important de développer une méthode de communication à ce sujet ?
Parce que souvent, quand on est parent, on veut faire au mieux et on veut protéger son enfant. Donc, pour le protéger, on va essayer de trouver justement les bons mots, on va essayer de trouver mille et une explications, on va regarder sur Internet, on va lire un bouquin, alors on va essayer de le nourrir de quelque chose pour le protéger et pour que notre enfant ne souffre pas. Alors, c'est normal, c'est un sentiment que tous les parents ont, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible dans l'absolu. C'est-à-dire que la souffrance de l'enfant, qu'elle soit minime, hein, parfois c'est juste la mort d'un poisson rouge, parfois c'est la mort d'un parent, il a quand même besoin de traverser cette souffrance. On ne peut pas protéger son enfant de toutes les souffrances du monde, ce n'est pas possible, on ne peut pas se protéger soi-même de toutes les souffrances du monde parce que la vie est bonheur et souffrance. Mais ce qui veut dire concrètement, c'est que dans la manière d'approcher un enfant, quand on ressent cela, tout est un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'essaye plus de vouloir le protéger à tout prix, de le rassurer, de lui dire que ça va passer, de lui dire que parce que maintenant on lui a expliqué les choses, tout ira bien. Par exemple, dans la question du divorce, j'entends beaucoup de parents me dire « on a fait les choses bien, on lui a tout expliqué, on lui a dit que papa et maman s'aimeraient toujours et qu'on ferait attention à lui, donc finalement tout ira bien ». Bon, en soi, effectivement, c'est noble de dire ça à son enfant, mais son enfant, il a le droit aussi de souffrir et de prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, avant de digérer l'information. Et c'est pas parce qu'on a fait les choses bien de notre fenêtre, de notre rôle de parent, même parfois les choses très bien, que l'enfant, lui, il a pas le droit de ressentir complètement l'opposé, d'être en colère, d'être triste, ou pas d'ailleurs, ou d'accepter aussi cette nouvelle. Mais on peut pas contrôler ce que va ressentir l'enfant. Et pour moi, c'est aussi important, aussi important d'avoir cette réflexion de manière simple. Hein. Dans le livre, j'essaye d'avoir vraiment une approche très concrète pour que tous les parents s'y retrouvent aussi, mais qu'ils comprennent quand même le message essentiel, c'est qu'on peut aussi accompagner la souffrance en allant en profondeur, sans penser que l'enfant, parce que c'est un enfant et parce qu'on lui a dit des mots magiques ou des mots doux, ça suffira. Et aussi parce que, juste je voulais finir là-dessus, mais quand on est capable de dire ça à son enfant, quand on est capable de vraiment l'écouter, de là où lui il en est et pas de là où nous on en est, on est capable aussi intérieurement de moins se juger, de dire bah, moi aussi tu vois là en ce moment j'arrive pas à faire quelque chose, ça peut être au travail, moi j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à, je sais pas, à changer de travail, et du coup d'être beaucoup plus vrai avec ses propres émotions aussi, parce qu'on fait plus semblant avec l'enfant, on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe réellement sans jugement, et on est capable de le faire aussi pour soi-même. Et c'est en ça que je trouve vraiment l'aventure intéressante, c'est qu'on fait l'effort pour l'enfant, mais on le fait aussi pour soi.
Bien sûr, c'est super intéressant. Et vous avez remarqué, qu'est-ce que vous avez remarqué notamment sur l'attitude généralement des adultes vis-à-vis de leurs enfants lorsqu'ils vivent une situation compliquée ?
Alors ça dépend évidemment hein, de la situation, mais plus en général la situation est compliquée, moins on gère. C'est normal parce qu'on est affecté complètement par la situation. Si par exemple notre enfant se fait harceler, il y a parfois une colère en nous, mais aussi une peur, et puis on n'a pas envie de voir qu'on n'a pas vu. Ça c'est évidemment, c'est un mécanisme de défense, de dire mince, j'ai raté quelque chose de mon enfant, je m'en veux. Et du coup dans notre tête, on est tout le temps en train de penser à nous, et puis moins à l'enfant. Alors on ne fait pas exprès, hein, c'est pas forcément conscient, mais on n'arrive plus à lui parler. Parfois c'est aussi l'inverse, hein, bien évidemment. Parfois, quand nous-mêmes, on est touché par une difficulté, ça peut être une maladie, ça peut être un chômage, peu importe, on a des émotions qui sont fortes. C'est difficile d'être disponible aussi pour soi et pour l'enfant. Parfois, on a besoin d'abord de digérer soi ses émotions avant de pouvoir parler à son enfant. Et parfois, ça prend quelques semaines. Parfois, en fonction de la situation, ça peut prendre plusieurs mois. Mais c'est pas grave non plus parce que c'est notre temps à nous. Parfois, il y a des enfants qui viennent en consultation, par exemple parce qu'ils ont perdu leurs parents ou qu'il y a un sujet grave. Et souvent, je leur dis, c'est pas toujours le bon moment. Des personnes qui viennent me voir le lendemain d'un deuil, par exemple. Alors, on a l'impression que, justement, avec le psychologue ou le fait d'en parler, ça va être magique et puis ça va disparaître. Non. On a besoin de prendre ce temps-là et parfois, on aura besoin d'ouvrir la porte plusieurs semaines après. Et c'est important de pouvoir suivre le rythme de l'enfant puisque chaque enfant aura un rythme complètement différent. Il y a des enfants, il faut qu'ils parlent du problème tout de suite. D'autres, il faut vraiment prendre le temps et attendre qu'ils soient mûrs pour en parler.
C'est super intéressant. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention votre livre et j'aimerais notamment que vous réexpliquiez à nos auditeurs, la méthode des 7 portes.
D'accord. Alors, l'idée, c'était de donner une image. Méthode, c'est quand même un grand mot, mais en tout cas, c'est une image pour comprendre que dans la communication, c'est un peu comme un oignon ou une cible, si vous voulez, on ne peut pas arriver au cœur tout de suite. Quand il y a un problème, souvent, on a envie de dire en tant que parent, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, raconte-moi, je vois bien que tu vas pas bien du tout. Tu sais, il faut vraiment parler, c'est important. Ça, c'est d'arriver directement au cœur des choses. Donc souvent, l'enfant dit, mais non, maman, tout va bien, tu t'inquiètes. Mais non, papa, arrête de t'énerver, j'ai juste envie d'être tranquille. L'enfant, il se défend parce que c'est comme si, dans une relation amoureuse, si on donne un autre exemple, vous vouliez savoir tout de suite exactement les sentiments de l'autre. Non, d'abord, il y a une phase de séduction, de regard, on a un peu peur que l'autre ne nous aime pas. Voilà, on s'ajuste. Dans la communication, c'est pareil. L'idée de donner cette porte, c'était pour dire que l'image, donner cette image que parfois les portes, elles sont fermées et qu'il faut respecter le timing, c'est-à-dire respecter le fait qu'il y a un chemin pour arriver au cœur des choses, donc les ouvrir les portes une par une. Plus concrètement, la première porte, c'est de demander à l'enfant ce qu'il pense de la situation. C'est-à-dire qu'avant de parler, on va prendre un exemple concret, ça va être plus simple, si par exemple papy ou mamie est parti au ciel, avant de lui expliquer ce qu'est la mort, avant de le nourrir d'une explication ou de le rassurer, on va lui demander, mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Par exemple, mamie est à l'hôpital, l'enfant ne voit pas encore cette grand-mère, elle n'est pas forcément morte, je ne sais pas, mais en tout cas, il est inquiet. Donc, on va lui demander, qu'est-ce que toi, tu penses de cette situation? C'est quoi tes images? Est-ce que tu penses qu'elle souffre? Qu'est-ce que tu te représentes dans sa tête? Pour que on puisse savoir à peu près quelle image mentale l'enfant a en lui. Parce que, dès que nous, adultes, on va parler, l'enfant, parfois, il va se représenter encore autre chose et c'est ça aussi qui lui fait peur. Par exemple, quand on annonce à son enfant qu'on est au chômage, bah, nous, on a notre vision d'adulte de ce qu'est le chômage, avec effectivement peut-être des restrictions, mais lui, l'enfant, il va s'imaginer qu'il va devenir mendiant, qu'on va perdre la maison, que papa et maman, ils vont être peut-être très tristes. Il va imaginer à sa hauteur. Et plus on va savoir ce qu'il imagine, donc par exemple la peur d'être un mendiant, plus on va pouvoir le rassurer sur sa peur à lui. Et pas sur les idées préconçues qu'on avait. Donc la première porte, c'est avant de commencer à cheminer, on veut savoir ce que ressent l'enfant exactement. Parfois, il y a des enfants qui pensent des choses dont on n'a aucune idée, et c'est important de le savoir pour pouvoir se connecter à lui. Ensuite, la deuxième porte, c'est de pouvoir le rejoindre dans son point de vue. Alors ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, forcément, mais ça veut juste lui montrer qu'on comprend qui peut ressentir cela, qu'on comprend qu'il peut avoir peur s'il imagine cela dans sa tête. Si on reprend l'exemple du chômage, c'est assez simple à comprendre. Lui dire, je comprends que tu aies peur, je comprends que vraiment ça t'angoisse à ce point-là, je comprenais pas pourquoi le soir tu te mettais dans ces états de stress, de sueur froide ou ces états de cauchemar, parce que j'avais l'impression que tu avais compris et je me rends compte en t'écoutant parler que bah oui, t'as vraiment peur parce que t'imagines qu'il va nous arriver une catastrophe. T'imagines qu'on va peut-être même pas pouvoir te protéger et que tu vas finir à la rue. Ou d'autres enfants, c'est parce qu'ils ont des mauvaises notes aussi. À chaque fois qu'ils ratent un contrôle, ils ont l'impression qu'ils vont finir à la rue. Donc je comprends en fait ton état de stress. Mais c'est pas, quand on dit je comprends, c'est pas, vous voyez, j'ai lu sur un livre, je dis je comprends. C'est vraiment comprendre. C'est-à-dire vraiment comprendre, ça veut dire écouter vraiment le point de vue de l'enfant et de se dire, mais peut-être que moi aussi. Comme par exemple, quand je suis au travail et que j'imagine qu'avec mon patron, si je fais pas tout ce qu'il me demande à l'instant T, il va me virer. En fait, je ressens vraiment du stress. Parfois, je sais que c'est dans ma tête, je sais que c'est un fantasme, et tout le monde a ça. Mais quand je le ressens à l'instant T, je le ressens vraiment. Et dire « je comprends » à un enfant, c'est être capable de le comprendre vraiment, mais du coup, de se mettre à sa place. La troisième étape, c'est de lui demander de préciser. C'est-à-dire, l'enfant, une fois qu'il a une idée, si on reprend l'exemple du chômage, c'est de lui demander « mais à quel moment tu as ressenti ça ? Est-ce que tu as entendu un discours qu'on a dit entre papa et maman ? Est-ce que c'est un copain qui t'a dit quelque chose aussi, qui t'a fait peur ? Est-ce que tu as eu mal dans ton ventre ?» Et c'est comme un enquêteur en fait. Un enquêteur, il ne sait pas les réponses avant et il se positionne toujours comme une personne donc, qui ne sait pas et qui va questionner. Donc on peut questionner dans toutes les directions, mais en essayant d'être le plus précis possible pour avoir un autre niveau d'information. Parfois, c'est un copain qui lui a dit, si on reprend toujours le même exemple du chômage, c'est un copain qui lui a dit que dans la vie, il ne ferait jamais rien parce qu'il était vraiment trop nul. Alors, de notre regard de parent, bien sûr, on a envie qu'il ait des bonnes notes et que ça se passe bien. Mais dans le regard de l'enfant, lui, il stresse à mort parce qu'un copain, lui a donné une petite inception, une petite graine de peur. Et du coup, il se met dans des états pas possibles, il veut plus aller à l'école, il a mal au ventre, alors que le parent, de son côté, il a peut-être pas l'impression d'être si sévère que ça. Bien sûr, il fait attention, mais pas plus que ça. Donc, plus l'enfant va préciser ce qu'il est en train de vivre, parce que nous, on va lui poser des questions, hein, ça vient pas forcément de lui-même, plus on va comprendre que sa peur, elle a du sens. Dans cet exemple-là, effectivement, qu'un copain s'est complètement moqué de lui ou que la maîtresse a fait une réflexion devant toute la classe, même si ça se fait de moins en moins, mais malheureusement, ça se fait quand même, pour comprendre à sa hauteur à lui ce qui l'a bloqué. Et ensuite, progressivement, toujours dans l'étape 2, on montrait qu'on le comprenait, dans l'étape 4, là, on reformule. Là, on a quand même beaucoup plus d'informations. On essaie de savoir si on a bien compris. Donc, si je comprends bien, ce qui est important pour toi, c'est pas forcément de réussir pour avoir un bon travail, mais c'est qu'au moins ce copain se moque plus de toi parce que à chaque fois que tu vas à l'école, maintenant t'as qu'une trouille, c'est d'avoir une mauvaise note. Donc on essaye d'affiner et de montrer à l'enfant ce que nous on a compris. Alors là, on donne les choses étape par étape, mais dans la vie, ça peut se faire en plusieurs jours. Hein. Parfois, on n'est pas là, on n'a pas toujours le temps de discuter 2 heures avec son enfant. C'est étape par étape, c'est une ligne directrice. Parfois, c'est le lendemain, c'est dire bah. Là, je comprends, parce que là, je t'ai vu revenir de l'école vraiment triste. Et depuis que tu m'as parlé de ça, je te vois autrement. Tu vois, je n'ai plus l'impression que c'est des enfantillages ou que parfois, je n'avais pas envie de m'en mêler parce que j'avais l'impression que tu pouvais gérer tout seul à l'école. Là, je sens que vraiment, tu n'es pas bien. Je le vois. Ça, c'est très important de pouvoir justement communiquer avec son enfant de cette manière-là. Ce n'est pas une reformulation, comme un robot, si vous voulez. Ah oui, je comprends. Et puis, on est complètement un peu à côté. La cinquième étape, c'est de pouvoir, alors là c'est plus subtil, c'est de commencer, alors c'est pas forcément encore, comme je disais, c'est pas forcément le jour même, mais c'est d'aider l'enfant progressivement, ce sera l'étape suivante, mais de transformer ses pensées. Et pour transformer ses pensées, donc l'étape 5, c'est de lui dire, mais finalement, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses que tu es nul ou que tu ne vas pas y arriver à l'école ou que tu penses que tu es un mendiant? Qu'est-ce que ça te fait ressentir en toi? Est-ce que ça te rend triste? Est-ce que ça te met en colère? Est-ce que ça t'aide de penser ça? En gros, est-ce que ça t'affaiblit quelque part de penser ça ou est-ce que ça te renforce? Parce que c'est important que l'enfant puisse aussi progressivement, et c'est tout l'enjeu finalement de cette pédagogie, entre guillemets, c'est de pouvoir comprendre à quel moment cette pensée, ça le dessert. Une fois qu'il a bien évidemment expérimenté ses émotions, qu'il a parlé à l'adulte ou à un grand frère, enfin à quelqu'un, peu importe, qu'il a vécu cette émotion, à un moment donné, il va falloir qu'il la transforme parce qu'il ne peut pas rester constamment dans le même état. Alors, ça prend du temps, encore une fois, hein, parfois c'est plusieurs semaines. Mais à un moment donné, l'enfant, il a le droit de ressentir la tristesse, mais à un moment donné, quand il est tout le temps en train de ressentir la tristesse ou de se dévaloriser ou d'avoir peur que mamie parte au ciel ou peu importe la raison, il va falloir que nous, on l'aide à transformer ça. Et avant de la transformer, il faut d'abord qu'il comprenne que cette tristesse, en fait, ça commence, entre guillemets, à le plomber. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va à l'école, il a l'impression, il a une petite boule au ventre. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est lui-même qui cultive sa propre pensée. C'est-à-dire que là, le copain, il lui a rien dit. Peut-être que c'était il y a un mois qu'il a fait une réflexion. Mais là, on aide l'enfant à comprendre, de dire « Je comprends que tu sois triste en pensant à ça, mais est-ce que ton copain, il te le dit tous les jours, ça ?» Est-ce que finalement, ton copain, il est là en face de toi ou alors le petit copain, il est rentré à l'intérieur de ta tête et en boucle, tu penses toujours, toujours au même sujet? Et finalement, est-ce que ça ne te rend pas un peu plus triste ou est-ce que ça ne te met pas encore plus en colère d'être entre toi et toi, finalement, et de t'inventer presque un film, parce qu'après, ça devient un film intérieur, en fait, de toujours penser au même sujet? Alors, ça se fait tranquillement, mais l'enfant, je veux dire, à partir du moment où il est capable de dire « mais en fait, ça ne m'aide pas du tout de penser ça, ça me rend triste, j'en ai marre, j'ai plus envie de penser à ça », c'est un bon point. Parce que là, il est mûr, entre guillemets, pour tranquillement passer à autre chose. Une fois qu'on l'a aidé à dire cela, donc à prendre conscience que là, il faut que ça change, hein, enfin quoi qu'il se passe, mais ça peut être pareil pour un deuil. Hein. Parfois, il y a des enfants qui restent enfermés comme ça ou en pensant toujours au passé. Bien sûr que c'est important parfois de penser au passé, mais on fait des allers-retours avec le présent, avec le futur, on voyage. Il y a des enfants qui restent bloqués parfois, qui n'arrivent plus à grandir, c'est le même processus. Bien sûr, on est plus subtil parce que le sujet est aussi très délicat, mais à un moment donné, il faut qu'on aide l'enfant à passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, c'est en maîtrisant, c'est un bien grand mot pour les enfants, maîtriser, mais en essayant de maîtriser ses pensées, ou en tout cas, si on n'arrive pas à les maîtriser, parce que c'est quand même assez long, de les surveiller. Je vois bien que là, même nous en tant qu'adultes, hein, parfois on râle au bureau par exemple. Bah, des fois, juste se dire, écoute là, je suis en train de râler là. Là, je suis en train d'énerver toute seule. Juste cette phrase-là, de s'auto-observer en train de râler, se plomber hein, concrètement l'esprit, et ben on se dit, ah oui, non, arrête de râler. On n'a même plus besoin que ce soit un collègue qui nous dise. On est capable, avec humour, avec légèreté, de se dire, ah non. Ou quand on a envie de rester enfermé chez soi, on a envie de voir personne, mais qu'on sait qu'au fond, on va pleurer, on va pas se relever. Alors parfois, c'est bien hein, de le faire, mais parfois, quand c'est un petit peu trop, se dire, bon, j'ai pas envie de sortir, je vais me forcer, je vais appeler une copine, parce que je connais le film. Je sais la fin du film, je vais encore pleurer toute la journée, tant pis, je veux du léger, j'appelle quelqu'un. Donc adulte, on est capable d'avoir la même chose. Parce qu'on est capable de se le dire et de se parler comme on parlerait finalement à un ami. Et l'enfant, c'est un peu la même chose. Et donc, dans la sixième étape, justement, c'est de l'aider à transformer ses pensées. Alors, transformer ses pensées, c'est un petit peu plus délicat. Donc, parfois, on tâtonne, hein, on fait des essais et des erreurs. Mais l'idée, si on prend un exemple concret, l'enfant, par exemple, est très triste parce qu'il dit « bon, moi, j'ai l'impression que mon père, il m'aime plus. Il vient plus me voir parfois, on sait plus comme avant, mon père, il m'aime plus. » Bien sûr, on demande à l'enfant si tu ressens ça, enfin justement si tu dis ça dans ta tête, qu'est-ce que tu ressens ? Alors évidemment l'enfant est triste, il peut se mettre à pleurer, il a l'impression que bah qu'il vaut pas grand-chose finalement parce que il comprend pas pourquoi il voit plus son père comme avant. Donc il se met comme ça dans un processus où il n'est pas bien. Et donc on va l'aider à transformer cette pensée et par exemple, on lui redemande voilà qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ça ? Bon ça on l'a dit, voilà, je me sens pas bien etc. Ensuite, on lui demande, mais qu'est-ce que tu sentirais si tu n'avais plus cette pensée ? Si tu n'avais plus l'impression que ton papa t'aime plus, qu'est-ce que tu ressentirais dans ton cœur ? Alors là, l'enfant, il dit, bah, ce serait plus léger, je serais tellement heureux. Alors, il commence à remonter des émotions positives. Donc, dans son corps, il est en train de vivre autre chose. Même si c'est qu'une seconde, il est en train d'expérimenter qu'il y a une autre possibilité. Même si dans la réalité, parfois, il va revenir, vous voyez, il va essayer de, comment dire, il va revenir à l'idée que son père l'aime plus, puis après il va dire mais peut-être que c'est faux, peut-être qu'il m'aime, et puis après il joue comme ça intérieurement, les pensées c'est tellement rapide, mais c'est pas grave, il fait l'expérience que quand il a plus cette pensée, mais de manière magique, hein, juste tiens, si t'avais une baguette magique et que tu n'avais plus cette petite pensée dans ta tête, comment tu te sentirais ? Ça y est, l'enfant respire, l'enfant se sent un tout petit peu mieux. Et ensuite, une fois qu'il a expérimenté un autre état, on lui demande « Mais comment tu peux être sûr que ce que tu penses, toi, c'est la vérité ? Comment tu peux me prouver à 100% que ton papa, s'il vient moins te voir, c'est parce qu'il t'aime plus toi ?» Et on essaye d'inventer d'autres possibilités. Pour que le cerveau ait un doute, il faut au moins 4 possibilités. Alors, on essaye de comprendre, est-ce que papa, il a des difficultés dans sa tête à lui ? Est-ce que, pour l'instant, il n'a pas assez de sous pour venir te voir parce que, j'en sais rien, le train ou parfois les transports, s'il habite à 500 km, ça peut être cher. Ou ça peut être, bien sûr, des choses complètement humoristiques ou complètement rocambolesques, peu importe. On l'invente avec l'enfant, donc c'est l'enfant qui doit aussi trouver sa propre solution. Donc, en fonction de son imaginaire, il peut inventer tout et n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce qu'à partir du moment où il est capable de donner plusieurs versions, il est dans le doute, donc il souffre déjà un petit peu moins. Parce que ce qui nous fait souffrir les adultes, hein, c'est la même chose, c'est quand on est sûr de ce qu'on pense. J'en suis certaine, il a fait ça à cause de ça. J'en suis certaine parce qu'il ne m'aimait plus. Ou je suis sûre que je vais me faire, on disait tout à l'heure, virer parce que j'ai pas rempli ce dossier. Et là, on se monte un film. On est tout le temps en train de penser. Et puis, plus on le pense, plus on en est sûr. Et puis, finalement, on commence à avoir des signes partout. Puis, on s'en rend un peu malade quelque part. Pour l'enfant, même si ça n'empêche que son émotion est douloureuse, mais en tout cas, sur sa pensée, on peut essayer de travailler à autre chose. Et puis ensuite, alors ça, c'est la partie la plus délicate, on n'est pas obligé de la faire, mais quand on le sent, on essaye de voir ce que ça donne, qu'on retourne sa pensée. Retourner sa pensée, ça veut dire, c'est plus « mon père ne m'aime plus », c'est « toi, est-ce que tu aimes toujours ton père ?» On inverse. Est-ce que parfois, tu n'as pas été en colère contre lui quand il est parti ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit « j'ai plus jamais envie de le voir, je veux plus jamais qu'il revienne dans cette famille, il m'a fait trop souffrir ?» Alors bien sûr, c'est qu'une pensée, hein, c'est pas forcément la réalité, mais juste de montrer à l'enfant que lui aussi, il a été en colère contre son père, et que c'est pas grave, que ça existe, et que c'est pas forcément son père qu'il aime plus, mais dire « qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu dis « c'est moi » et à un moment donné qui ai rejeté mon père, tellement j'étais en colère, tellement j'étais triste ?» Et à partir de là, puisqu'il est capable de dire « je », Donc de prendre la responsabilité de ses émotions, de dire c'est moi parfois qui suis en colère. Alors là, on peut retravailler évidemment et aller beaucoup plus en profondeur, de dire bah tiens, là tu es capable de diriger cette pensée. Comment on va faire ? Et c'est pareil, bon, évidemment, là, on a un exemple d'un père, voilà, parce que c'est assez touchant, mais c'est pareil pour l'enfant dont on a un exemple qui avait des mauvaises notes et qui avait peur d'être à la rue. C'est pareil, une fois qu'il est capable de dire « c'est moi qui ai inventé dans ma tête cette petite graine de peur, c'est moi qui ai eu cette peur-là, je suis capable aussi de la transformer parce que je suis responsable de mes pensées, donc je vais pouvoir m'amuser. » Dire, par exemple, si tu es mendiant, qu'est-ce que tu pourrais faire pour gagner beaucoup d'argent ? Il faudrait que tu trouves une solution dans la rue. Comment tu pourrais rebondir ? Et on repart encore une fois dans l'imaginaire pour que l'enfant retrouve sa solution. Alors parfois, il y a des enfants beaucoup plus mesurés qui sont capables de dire des choses aussi très factuelles. Mais la majorité des enfants, en tout cas en primaire, ont besoin de repasser par cette pensée magique où ils redeviennent le héros. Et c'est comme ça qu'on joue avec les émotions pour que l'enfant, à un moment donné, se dise « voilà, s'il m'arrive le pire, si maman meurt, si je suis à la rue, s'il y a des attentats, etc., qu'est-ce que je vais faire, au moins dans ma tête, pour me sortir de cette situation ?» Et on laisse l'enfant faire. Si on prend l'exemple des attentats, qui était un autre sujet délicat, les enfants, moi j'ai des enfants, ils me racontaient que dans leur chambre, ils avaient mis des pièges pour que les méchants ne viennent pas. Alors c'est un enfant de 5-6 ans. Hein. Il avait fait tout un univers pour protéger ses parents, et lui, à sa hauteur d'enfant, ça le suffisait. Ça lui suffisait de se dire, bah, au moins, moi, je fais tout pour qu'il ne se passe rien chez nous et qu'il n'y ait jamais personne qui rentre. Alors évidemment, de notre hauteur d'adulte, on peut être un peu abusé, mais ce n'est pas grave parce que lui, c'est vraiment tout l'univers qu'il a construit dans sa tête pour se sécuriser. Et c'est OK puisque ça vient de lui. Et donc la dernière étape, qui est l'étape de réconfort, donc la septième porte, c'est de se reconnecter à son enfant, évidemment avec un geste affectueux, donc pouvoir le serrer fort dans ses bras. Alors des enfants qui n'aiment pas être touchés, ça peut être simplement lui prendre la main, mais en tout cas lui montrer qu'encore une fois, corporellement, on parlait tout à l'heure de l'idée d'une approche tête-cœur-corps, c'est encore une fois de se dire, une fois qu'on a parlé, qu'on a donné l'émotion, c'est très fatigant hein, pour l'enfant. C'est souvent, ils s'endorment d'ailleurs après, ils sont tranquilles. On n'a plus envie de parler quand on a dit quelque chose de très lourd. On se reconnecte voilà, avec un câlin, un ressenti, un sentiment de sécurité. Parfois, si ce n'est pas le câlin, ça peut être juste, bah, tiens, on va se mettre sous la couette, on va se créer une cabane, on va se mettre les couvertures, on va se donner une petite bouillotte, on va faire un biberon, infusion, peu importe, on peut inventer ce qu'on veut, mais quelque chose qui nous réconforte. Pour ne plus être dans la tête, justement, et de se dire, voilà, on a fait un gros effort maintenant. Allez, on se fait plaisir. On se mange un petit chocolat, peu importe, mais on se fait plaisir et on réincarne le moment présent. On est là et on repart sur quelque chose de plus léger. Tiens, est-ce que tu as envie qu'on se fasse une balade maintenant? Parce que là, on a beaucoup de travail sur le cœur. Allez, on passe à autre chose, quoi, en clair. Voilà l'idée, en gros, des sept portes, qui est plutôt une image mentale hein, pour les parents, encore une fois, au-delà d'une méthode, on peut aller dans le sens qu'on veut, mais en tout cas, se dire qu'une fois qu'on a la direction, voilà, on peut s'arrêter aussi en chemin, tout le monde n'est pas forcément capable aussi de parler avec son enfant, et c'est pas grave, on n'est pas tous équipés de la même manière, parfois on va demander à une tante, une grand-mère, pas forcément une psychologue, parfois c'est une psychologue, mais peu importe, on peut aussi, l'enfant il est capable aussi quand il n'arrive pas à parler, de trouver aussi, ça c'est la responsabilité de l'enfant, de trouver quelqu'un à l'extérieur. Parce que ça c'est un message important que je voulais faire passer, c'est qu'en tant que parent, on peut pas tout faire. Parfois on a l'impression maintenant qu'il y a tellement d'outils qui existent qu'on peut garantir le bonheur de son enfant, on va essayer de trouver une méthode. Parfois c'est possible, c'est vrai, il y a des parents qui savent très bien communiquer. Parfois on n'y arrive pas et on peut aussi passer le relais et l'enfant grandira aussi très bien. Parfois, quand on est malade soi-même, par exemple, ou on reprend toujours le même exemple de la situation du divorce, c'est trop dur d'en parler. Parce que nous-mêmes, on est dévastés. Et on a le droit, en fait, de ne pas pouvoir protéger son enfant comme on le voudrait. Alors, on va demander de l'aide à l'extérieur. Mais l'enfant aussi, quand, en tant que parent, on n'est pas capable de le faire aussi, parce qu'encore une fois, on est trop mal, l'enfant, il a aussi sa vie. Il a aussi sa destinée, entre guillemets. Il a aussi cette responsabilité de dire, bah, moi, ça ne va pas à la maison. Je vois bien que mes parents, rien ne va changer en fait. Donc moi, j'allais trouver un copain, peut-être la mère d'un copain ou peu importe, quelqu'un, pour essayer de trouver quelqu'un qui va m'aider. Et donc ça, c'est important, parce que sinon, je trouve que les parents ont tellement de responsabilités, de poids, de culpabilité. Enfin, bah oui, parfois, on est, voilà, Parfois, vous êtes très heureux, vous êtes un super parent, et puis un jour, voilà, vous perdez votre conjoint, vous perdez votre travail. Ben, vous avez le droit, à un moment donné, aussi d'être traversé par des émotions douloureuses, et heureusement. Et peut-être que pendant quelques mois, ok, vous ne serez peut-être pas le parent que vous étiez avant, mais ce n'est pas grave, l'enfant, il peut aussi se raccrocher à d'autres branches, et heureusement, en tout cas.
C'est super, et j'adore cette méthode parce qu'elle est très concrète, en fait. Je trouve que ça va vous donner vraiment les clés pour... facilement, c'est un grand mot, mais le mettre en place en tout cas à la maison. Et d'ailleurs, j'avais une dernière question à ce sujet. Ce que j'aimais bien aussi dans votre livre, c'est vous parler du bon timing, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent prêts de le faire, mais qui ne savent pas quel est le bon moment pour se lancer là-dedans. Est-ce que vous auriez des conseils à partager là-dessus?
Alors, c'est toujours d'essayer par essai à erreur. C'est-à-dire qu'en vrai, on n'en sait rien comment va réagir l'enfant et on ne sait pas comment nous, on va réagir. Donc, quand on le sent et qu'on est préparé et qu'on a envie de parler d'un sujet important, on peut essayer d'en parler à l'enfant et tout simplement, on observe dans le réel ce qui se passe. C'est-à-dire que concrètement, il y a des enfants, si on reprend toujours le même exemple, ce sera plus facile de la séparation, il y a des enfants, on leur annonce qu'on va se séparer, tout de suite, ils vont réagir. Ils vont être en colère, ils vont claquer la porte, ils vont dire « mais c'est pas juste, vous nous abandonnez », ils vont exprimer tout de suite. D'autres, on a l'impression que finalement, des parents qui me disent « ah bah non, mais finalement, ça s'est bien passé, il a à peine réagi ». Bon, bah finalement, tout va bien. Hein. Ah oui, mais... pour l'instant, il faut quand même qu'ils digèrent la nouvelle. Donc, parfois, ce sera peut-être le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois. C'est juste important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le sait, quand dans 6 mois, ça ira pas très bien à l'école, par exemple, ou qu'il sera quand même un petit peu nerveux, irritable, qu'il commencera à nous répondre, on sera plus dans le cadre « non, il faut pas répondre à ses parents, reste poli, fais attention à ce que tu dis, etc. » Non, bien sûr, enfin, on le dira parce que c'est le cadre, mais dans notre tête, on se dira « ah oui, attends. » Là, je l'ai grondé parce que j'étais obligée de le gronder. On ne peut pas mal parler, on ne peut pas taper. Par contre, ce soir, je vais peut-être aller le voir dans sa chambre. Moi, je sens qu'il n'est pas comme d'habitude. Évidemment, alors, parfois, on se trompe. Hein. Parfois, ce n'est pas forcément qu'en lien avec la séparation non plus. Hein. Mais en tout cas, pareil, si on reprend l'idée des 7 portes, on pose des questions. Moi, j'ai l'impression que voilà, tu n'es plus comme avant. Il y a quelque chose qui se passe en toi. En vrai, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je ressens que ça ne va pas très fort en ce moment. Est-ce que... peut-être que c'est à cause justement de ce qui s'est passé il y a plusieurs mois. Si tu as envie d'en parler, on pourra en parler, mais pas tout de suite. On n'est pas obligé de... mais je voulais juste te le signifier. Peut-être que c'est aussi à l'école et que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de pouvoir me connecter à toi. Parce que tu es mon enfant et j'ai vraiment envie de faire le mieux possible. Après, je comprends que tu ne veuilles pas me parler tout de suite et t'inquiète pas, on prendra le temps qu'il faut. C'est important de dire à l'enfant... qu'on va prendre ce temps-là parce que ça le sécurise. Souvent, les enfants, du coup, ils parlent un peu plus vite parce qu'ils ne sont pas obligés de parler. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de lourd. On dit « oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir ?» Comme dans le couple, on dit « oh là là, chérie, il faut qu'on discute. Hein » L'autre n'a pas du tout envie. Il se dit « oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez ?» Bon, ben là, c'est pareil avec l'enfant. On lui dit « t'es pas obligé, mais juste, je voulais te dire que je l'avais vu. » C'est tout. Et puis, il y a des enfants qui réagissent aussi au bon moment, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a un bon moment ? C'est toujours une question... philosophique, donc ils sont capables de dire bah, tu sais maman je comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes séparés, j'ai besoin de comprendre, tout allait bien, moi j'ai pas eu l'impression que vous disputiez et j'ai rien compris et ça me fait mal quoi, ça me fait mal de voir que vous êtes plus ensemble. Et ça, c'est des enfants qui sont un peu plus grands ou parfois un peu plus matures. Mais en tout cas, le timing pour répondre à votre question, c'est j'essaye et j'observe ce qui se passe. Si je vois que l'enfant il est complètement fermé, je lâche un petit peu, et puis peut-être que dans quelques jours, quand moi je serai bien aussi. Puis c'est aussi la question du moment propice. Parfois on est en balade avec son enfant. Moi j'aime bien l'idée de marcher, parce que quand on marche, tout le décor est nouveau. Alors que ce soit même dans la ville, bon. Mais si on peut avoir un peu de nature, c'est toujours mieux évidemment, mais pas forcément la grande nature, hein. On peut juste avoir le parc d'à côté. Mais en tout cas, en marchant, en découvrant un nouveau paysage, le cerveau n'est pas dans la même disposition. Et puis surtout, quand on parle, on ne se regarde pas. On regarde le chemin et souvent, sans s'en rendre compte, et c'est, même pour les adultes, hein, c'est la même chose, on raconte des choses, on c'est plus léger, puis après on regarde un arbre, on regarde un animal, on regarde un enfant qui joue et puis hop, on revient au sujet. Et parfois, c'est beaucoup plus facile que se regarder comme ça entre 4 yeux alors que potentiellement, le frère peut arriver et peut venir nous embêter ou se moquer de nous, etc. Je trouve que sur la question des sujets délicats, au-delà du timing, c'est important d'avoir aussi le bon endroit. Et que parfois, c'est pas toujours à la maison. Ça, si, en tout cas, on est sûr, écoute, entre guillemets, et que les autres frères et sœurs, ou peu importe, le papa ou la maman sont là, d'avoir un endroit un peu rien qu'à soi, une petite bulle, voilà, juste le parc d'à côté, hein, pas forcément besoin d'aller très loin. Mais en tout cas, ne pas être toujours dans cette idée que parce qu'on discute, il faut que ce soit sérieux et puis il faut tout lâcher d'un coup. Parfois, c'est bribe à bribe. Parfois, c'est au détour d'une balade. Moi, je vois les enfants quand ils viennent au cabinet. Parfois, ils jouent. Puis même moi, intérieurement, je me dis, voilà, il faut qu'ils arrivent à parler. Puis en fait, je me rends compte que quand j'ai cette posture, ça marche pas du tout. Et parfois, l'enfant, on va jouer et puis je me dis, bah, c'est pas grave. On va jouer à la poupée. On va dessiner un chat ou enfin, quelque chose qui n'a rien à voir. Seulement, on a besoin de ce temps-là parce qu'à un moment donné, il va être bien et c'est là qu'il lâche, entre guillemets, une bombe. Et là, l'enfant, il faut tout de suite le saisir au vol parce qu'il ne le dira pas deux fois. Mais il le dit parce qu'on est bien et que justement, on est dans un rapport de confiance, je ne le force pas à parler, je n'essaye même pas de lui poser des questions très directes. Qu'est-ce que tu ressens? Alors pourquoi? Non, c'est trop direct. On joue et puis à un moment donné, ça s'ouvre et ça vient. Alors pour les parents, parce que tout le monde n'est pas non plus thérapeute, hein, faut pas non plus se mettre la pression, mais simplement marcher ou voilà faire une activité où on est bien, on est en confiance, c'est léger, personne nous regarde et naturellement le corps il sait, il sent que c'est le bon moment et il se passe quelque chose. Et même nous en tant que parents, des fois on est étonnés parce qu'on ne savait pas trop par quel bout prendre, on ne savait pas comment le dire. On veut annoncer un truc et finalement des fois c'est l'enfant qui nous pose la question et intérieurement on dit ah ça y est je comprends du
tout. Merci.
je sais pas quoi faire.
C'est super. Et on arrive déjà à la fin et c'est tellement passionnant ce que vous racontez qu'on aimerait que ça dure encore des heures. Mais j'aimerais vous poser une dernière question. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est au sujet des questions des enfants et notamment lorsqu'ils posent des questions délicates. Je trouve également cette situation hyper intéressante. Vous avez parlé notamment tout à l'heure de pourquoi papa et maman se disputent tout le temps. Je me demandais également si vous pouviez partager rapidement un conseil pour cette posture à adopter lorsque c'est les enfants qui viennent nous poser des questions auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement.
Alors, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que quand l'enfant pose une question, alors je ne sais pas, ça peut être les attentats, ça peut être une question, en général, on n'a pas la réponse. Parce que soit c'est trop lourd, soit les enfants ils viennent pointer une incohérence, quand par exemple ils vont dire « mais pourquoi j'ai pas le droit d'avoir mon téléphone portable alors que toi t'es tous les soirs en train de regarder, de faire des jeux vidéo, de checker tes mails, et moi j'ai pas le droit, c'est pas juste ». Et là, c'est un petit peu, je trouve, la limite de la communication bienveillante, parce que parfois on se dit « mince, on a donné tellement de valeur à nos enfants ». On leur a donné tellement de sens, on a essayé de tout bien faire, et puis là, ils viennent nous piéger sur notre propre terrain et on ne sait plus trop quoi dire. Et donc, l'idée, c'est pareil de pouvoir, pour la question des attentats, en tout cas, de demander à l'enfant ce que lui, il pense de ça. Est-ce que tu penses vraiment que tout le monde peut être méchant? Est-ce que tu penses que les méchants pourraient venir aussi dans notre maison? Alors, il va dire oui, il va dire non. Et on va essayer de construire, c'est la même chose, tout un dialogue pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est plus simple parce que c'est un sujet qui ne nous touche pas. En revanche, pour un sujet qui nous touche, par exemple, le téléphone portable, c'est beaucoup plus subtil. Mais aussi de pouvoir dire à l'enfant, tu sais, moi, j'essaye de t'éduquer au mieux, de faire ce qui est le mieux pour toi, mais parfois, moi-même, j'y arrive pas toujours. C'est d'être humble aussi dans sa posture d'adulte et dire, bah, moi aussi, parfois, j'essaye de me détacher de ce téléphone et j'y arrive pas. Mais en tout cas, le fait que tu me le dises, ça m'aide à en prendre conscience. Par contre, ça n'empêche pas que ça reste moi l'adulte et que parfois, si je te demande quelque chose, c'est un petit peu le jeu. Le jeu, c'est que tu m'écoutes, même si parfois tu n'as pas envie. Et un jour, quand toi, tu seras grand, ce sera toi qui décideras aussi. Parce que là où il faut faire attention, c'est que être dans la communication avec l'enfant, oui, bien évidemment. Mais on ne peut pas tout expliquer tout le temps. On ne peut pas mettre des mots sur tout parce que l'enfant, il vient pointer nos incohérences. Et puis du coup, on perd parfois des enfants qui viennent aussi. On le voit, les parents, ils sont perdus parce qu'à force d'avoir ouvert tous les sujets de l'actualité, tous les sujets de la vie, bah, les enfants, ils ne comprennent plus. Et puis ça les énerve ensuite. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas commander puisqu'on leur a demandé leur avis sur tout et que finalement, ils ont un avis sur tout. Donc pour moi, c'était important aussi de remettre l'enfant au centre, mais à la fois le décentrer, c'est-à-dire garder sa posture d'adulte pour ne pas... Alors, c'est pas perdre le rôle, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ne pas essayer d'en faire trop pour l'enfant et de l'élever dans des valeurs qu'il ne touchera jamais lui-même et qu'on n'est pas capable, nous, de montrer. Pour moi, c'est important d'incarner nos valeurs, mais parfois, c'est des valeurs beaucoup plus simples plutôt que... là, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'avais un enfant où le parent pense... Enfin, il fait bien en soi, c'est pas ça, mais il explique à son... à son enfant que la notion du pardon, c'est très important, et qu'on ne dit pas pardon si on ne le ressent pas. Parce que si on ne ressent pas les choses, ça ne sert à rien de les dire. Il faut être cohérent avec soi-même. Alors, en soi, c'est très bien, mais pour un enfant de 5-6 ans, qu'est-ce qu'il comprend de cette cohérence-là? Donc, il se retrouve face à la maîtresse, et puis la maîtresse, il fait une bêtise, et puis la maîtresse lui demande de s'excuser et de demander pardon. Et là, l'enfant regarde la maîtresse maternelle hein, et dit « Ah non, parce que je ne le ressens pas, donc je ne dirai pas pardon si je ne le ressens pas, ça ne sert à rien. » Et là, évidemment, il s'est fait punir. Il s'est fait punir parce que la maîtresse, elle l'a trouvé assez insolent. Alors, l'enfant, il est pris entre deux feux, parce qu'à la fois, il écoute son parent avec les valeurs qu'il lui inculque, mais en même temps, des fois, dans la réalité, il faut pas mélanger l'absolu, c'est-à-dire oui, si on reprend l'exemple du portable, bah oui, on évite de regarder le portable parce qu'on découvre le monde. Ça, c'est la valeur absolue. Mais dans la réalité, parfois, on est fatigué et parfois, effectivement, papa et maman, ils regardent le portable. Et peut-être que maintenant, grâce à toi, grâce à cette réflexion, je comprendrai mieux quand toi, t'as tellement envie de regarder l'écran. Mais je pourrais aussi t'aider à faire une activité, qu'on soit ensemble, faire la cuisine, se balader pour qu'on s'aère l'esprit. Pas forcément que lui donner pour lui donner, mais juste lui dire, mais en fait, je comprends, parce que moi aussi, tu sais, des fois, je suis un peu accro et je me laisse piéger par le temps. Et on fait de l'humour, quoi. On devient plus léger et ensuite, on passe à autre chose, toujours la même. On dira, tiens, t'as raison, allez, je pose le téléphone, toi aussi, allez, viens, on va faire une surprise, on va faire le dîner pour papa. Ou inversement, hein, puisque maintenant, les hommes font beaucoup la cuisine. On va faire le dîner pour maman, c'est bien aussi.
C'est super. Merci beaucoup, Florence. C'était passionnant. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous et je suis sûre que ce sera d'une grande aide pour tous nos auditeurs. Donc, merci mille fois et je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaies.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de Demain.